les experts Axel de Tarlet pour l'économie, Sophie Larmoyer pour Le Monde et Géraldine Vosner pour Le Vrai Faux. Bonjour à tous.
Bonjour Thomas.
Alors là, c'est une petite révolution, Axel de Tarlet, puisque vous nous annoncez la fin du tout jetable. Le groupe Seb, qui est le numéro 1 mondial du petit électroménager, s'engage à ce que tous ses produits puissent être réparés pendant au moins 10 ans. Aujourd'hui, on sait qu'on est bien souvent obligé de jeter à la poubelle un appareil parce qu'une petite pièce est cassée.
Eh oui, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Vous savez, les constructeurs qui feraient exprès de faire en sorte que votre appareil tombe en panne juste après la fin de la garantie pour vous forcer à acheter un nouvel appareil.
Ça n'a jamais été prouvé, mais il y a de sérieux.
Voilà. Alors, les consommateurs, en tous les cas, ne supportent plus de jeter un appareil parce que l'interrupteur, la poignée ou le thermostat est cassé, que bien sûr vous ne pouvez pas le réparer, ou alors ça vous coûte aussi cher, voire plus cher qu'un appareil neuf. Et bien du coup, désormais, les ingénieurs de Seb ont pour ordre de créer du petit électroménager entièrement réparable. Mmh. Ainsi, sur la quasi-totalité des articles du groupe Seb et désormais de toutes ses filiales, à savoir Krups, Moulinex, Calor, Tefal, Roventa, sur tous ces produits et dans le monde entier, vous avez même sur l'emballage ce logo qu'on vous a mis. Donc c'est un cercle sur fond bleu avec un tournevis et cette mention « Produit réparable 10 ans ». Alors bien sûr, cela suppose toute une logistique en amont avec plus de 5 millions de pièces détachées en stock immédiatement disponibles, un réseau de 250 réparateurs agréés en France, 6500 dans le monde, capables de vous réparer votre grille-pain, votre aspirateur, pour un prix bien sûr inférieur au neuf.
Oui, attention, ce n'est pas une réparation gratuite. On peut faire réparer, mais c'est payant.
Voilà, 30% ouais. Du prix du neuf. Ou alors, il y a des modes d'emploi sur Internet pour réparer vous-même. Voilà. Mmh.
Mais sans être cynique, Seb va vendre moins de produits, moins de grille-pain, s'il dure plus longtemps.
Alors voilà, ça c'est mathématique. Si le produit dure plus longtemps, du coup, Seb va en vendre moins. Alors chez Seb, on dit oui, mais on se targue d'écouter le client. Le client veut des produits durables, donc Seb fabrique des produits durables. Avec cette idée d'ailleurs que si vraiment les gens ne veulent plus jeter à la poubelle leur petit électroménager, peut-être qu'ils achèteront du coup des produits Seb. Donc vous voyez, à la clé, ça pourrait faire plus de ventes au détriment de la concurrence. Tout ça pour montrer en tous les cas que comment la pression des opinions publiques arrive finalement à faire changer la pratique des industriels. Oui, vous l'avez dit, c'est peut-être la fin du tout poubelle et le retour des appareils durables, vous savez, qu'on achetait et qu'on gardait.
Un petit bémol quand même, 250 réparateurs sur toute la France, c'est pas énorme.
Hein. Ouais. Voilà.
C'est pour gros délai d'attente.
En tous les cas, il y a tout le mode d'emploi pour les dévisser et les réparer sur Internet.
Mais il y a peut-être un petit tournant donc, avec cette garantie
voilà.
Disons, chez
Seb. Numéro 1 mondial du petit électroménager, la concurrence n'a qu'à imiter.
Mais ils vont nous faire payer cette garantie. Ah, vous voulez la garantie 10 ans ?
Non, c'est pas une extension. C'est pas une extension de garantie, c'est hors garantie.
D'accord.
Voilà, c'est bon ? On peut passer à autre chose. Et l'autre chose, c'est la suite du feuilleton brésilien après la destitution de l'ancienne présidente Dilma Rousseff, Sophie Larmoyer. Cet épisode-là, on pourrait l'appeler l'arroseur arrosé. L'ancien président de la Chambre des députés, celui qui avait lancé la procédure faisant tomber Dilma Rousseff, il a été lui-même destitué par ses pairs.
Voilà, ça s'est passé la nuit dernière avec un vote sans appel. Hein. 450 voix pour qu'Eduardo Cunha perde son mandat de député, 10 contre et 9 abstentions. Voilà ce qui s'appelle être lâché. En fait, plus de 80% des Brésiliens souhaitaient sa destitution. Il y a le mois prochain des élections municipales, d'où ce rare moment d'unanimité nationale au Brésil, y compris dans les rangs des parlementaires.
Mais c'est qui cet Eduardo Cunha ?
Alors, c'est un ultra-conservateur proche des évangéliques et qui avait acquis une grande influence en fédérant autour de lui l'opposition à la gauche au Parti des Travailleurs de Rousseff et Lula, et en particulier ce qu'on appelle là-bas le groupe BBB pour Bœuf, Bible et Balle. Mmh. C'est-à-dire ces milieux évangéliques proches des affaires de l'agro-business et qui sont partisans du port d'armes. Alors, à peine élu à la présidence de la Chambre des représentants, début 2015, il avait commencé à être interrogé au sujet de comptes qu'il aurait en Suisse. Il a toujours nié, mais les preuves se sont accumulées.
Donc, toute ressemblance avec un procès se déroulant en ce moment en France serait évidemment purement fortuite. Hein.
Purement fortuite. En l'occurrence, au moins 5 millions de dollars d'origine suspecte ont transité sur ses comptes. Lui, sa femme, une de ses filles, auraient touché des pots de vin dans, vous savez, cette grande affaire de corruption du groupe pétrolier Petrobras. Pour résumer, aujourd'hui, ce sont plus de 10 enquêtes judiciaires qui le concernent. Alors, c'est pour avoir menti au sujet de ses comptes en Suisse devant une commission parlementaire qu'il est destitué, comme si tout le monde ne disait que la vérité, s'est-il étonné dans une interview. Mais voilà, il est redevenu simple justiciable, il va falloir affronter.
Mais il a un pouvoir de nuisance, en tout cas, qui fait peur à beaucoup, ouais, hein, même s'il est inéligible.
À Brasilia, parce que 160 autres députés au moins font aussi l'objet d'enquêtes judiciaires. Il l'a opportunément rappelé dès la fin du vote contre lui. Et Eduardo Cunha a prévenu, il en sait long sur tout le monde, il va écrire un livre. Et puis s'il parle, il obtiendra sans doute des réductions de peine dans ses affaires judiciaires. Voilà, qui va peut-être aider finalement les enquêteurs de la vaste opération Lavage Ato, Lavage Express.
On ne sait pas s'il a dit qu'il n'a pas et qu'il n'a jamais eu, etc. etc.
Non, ça...
voilà. Le vrai faux de l'info, tout de suite, Géraldine Vosner. Et dans votre radar ce matin, Géraldine, le ministre des Transports empêtré plus que jamais dans le dossier Alstom.
Alain Vidalis, accusé de négligence, s'est défendu auprès de vous hier, Thomas, en assurant qu'il n'avait pas été informé de la volonté d'Alstom de fermer le site de Belfort, et pour une bonne raison.
Ce qui aurait été une faute pénale, c'est que le gouvernement soit au courant avant que le comité d'entreprise le soit. Car si le débat avait eu lieu avant et que vous en avez la preuve, ça s'appelle un délit d'entrave.
Alors, parler de ce projet avant d'en informer les syndicats, ça aurait constitué un délit d'entrave. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ?
C'est faux, Thomas. Et dans sa volonté de se dédouaner, Alain Vidalis méconnaît le droit. Un délit d'entrave, c'est le fait d'empêcher les représentants du personnel d'accomplir leur mission en les privant des moyens de le faire, en l'occurrence, en ne les informant pas à temps, car la loi impose qu'une entreprise qui prévoit de fermer un site consulte au préalable ce comité d'entreprise. Mais ça, c'est dans les cas où la décision est déjà arrêtée. Le projet bouclé, présentable
là,
à Belfort, on n'en est pas du tout là. C'est donc une jurisprudence qui s'applique, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation. L'annonce à la presse d'un projet de licenciement économique, dit cet arrêt, sans consultation n'est pas un délit, dès lors qu'il s'agit d'une déclaration d'intention. En clair, Alstom est resté dans les clous et aurait parfaitement pu discuter avec le ministre.
C'est d'ailleurs ce qui se pratique dans la majorité de ces affaires sensibles, non ?
Évidemment, Thomas, et on ne va pas se voiler la face, c'est pour ça que les critiques se déchaînent. Alain Vidalis a été informé des difficultés à Belfort par au moins 3 courriers envoyés par des parlementaires en 2015-2016. Et les syndicats auxquels j'ai parlé lui reprochent surtout de ne pas avoir été proactif. Il aurait pu lui-même appeler le patron d'Alstom, qui a peut-être voulu tirer le signal d'alarme avec cette annonce, avant d'engager de lourdes procédures de rechercher un repreneur pour le site. C'est une obligation depuis la loi Florange.
Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vosner, les experts qu'on retrouve demain matin. À demain.
À demain.